FM, il est 8h. Les titres de votre journal, Caroline Salyon.
Plus que quelques heures avant la fin de cette année 2020 qui ne restera pas dans les annales de nos meilleurs souvenirs. Même le réveillon de la Saint-Sylvestre ne sera pas comme les autres. Un réveillon sous couvre-feu dans un contexte de crise sanitaire. Les contrôles d'ailleurs des forces de l'ordre seront nombreux ce soir. Mais pour vous redonner un petit peu du baume au cœur, nous vous avons concocté dans ce journal quelques menus du réveillon à déguster sans modération. Et puis le bilan de l'année 2020 chez certains professionnels qui ont été en première ligne cette année. Eh bien, nous avons posé la question à une enseignante ce matin.
Et on va débuter ce journal avec une note positive, Caroline, pour cette dernière matinale de l'année 2020.
Et oui, on ne va pas vous parler pour l'instant, je dis bien, de couvre-feu, de chiffres de la Covid-19 et de contrôle, mais de ce que vous allez pouvoir déguster ce soir pour ce réveillon. Alors, les restaurants sont fermés, bien sûr, au public, mais les restaurateurs ont préparé et emporté des menus de fête pour se faire plaisir et pour ravir nos papilles en ces temps tourmentés, Christophe Giudici.
Huîtres, foie gras, desserts, homards gratinés au champagne, depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, certains restaurateurs insulaires proposent un menu du réveillon à emporter, l'occasion de faire rentrer de la trésorerie en ces temps de fermeture, mais pas que, explique Jean-Michel Auberti, gérant du restaurant La Litorne à Villedipetrabouille.
Se réunir là pour déjà avoir toute l'équipe avec nous, parce que déjà on ne se voit pas beaucoup, on discute beaucoup, mais bon, ça fait bien fou. Vous savez que le restaurant chez nous c'est une seconde famille, hein, donc on a besoin de se voir, de partager, d'envisager dans un futur proche. J'espère la réouverture des restaurants, mais bon, c'est mal parti.
Dans les cuisines, on découpe, on mélange. Christophe Avenoz, le second du restaurant qui réalise aussi les desserts, est heureux, lui aussi, de pouvoir retrouver les fourneaux.
On a toujours cette passion de la matière, du travail, des produits frais, et de revenir là, et ça nous maintient un peu dans ce bain. Hein.
Et pour ce que l'on va retrouver dans l'assiette, pour ce 31 un peu particulier, c'est le chef Quentin Sanchez qui s'y colle.
Des choses un peu légères, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur des carpaccio, des petites bouchées fraîcheurs. On a quand même quelques plats un peu plus gourmands comme brioche foie gras, de faire bien, de satisfaire les clients, qu'ils soient contents et surtout qu'ils continuent à nous suivre et qu'ils soient au rendez-vous pour les réouvertures à venir.
Des restaurateurs qui ont hâte de pouvoir accueillir à nouveau les clients à l'intérieur de leur établissement.
Et un bon menu de réveillon à emporter, bien sûr, avant 20h, heure à laquelle il faudra être rentré. Car pour ce réveillon, contrairement à celui de Noël, le couvre-feu de 20h à 6h du matin reste en vigueur. Ce soir, les forces de l'ordre seront d'ailleurs mobilisées avec 350 gendarmes et policiers sur le pont pour contrôler. Alain Charrier est le secrétaire général de la préfecture de Corse. Et il revient sur ce dispositif d'envergure mis en place pour cette nuit de la Saint-Sylvestre.
Le préfet a souhaité qu'un dispositif renforcé soit mis en place à partir de 20h pour toute la nuit du 31, bien évidemment, afin qu'on puisse à la fois contrôler et prévenir toutes les difficultés qui pourraient se faire jour. Pour le 31, tous les effectifs de police et de gendarmerie seront sur le terrain et veilleront à ce que les mesures soient respectées, que les mesures Covid soient respectées, mais aussi que le couvre-feu soit respecté de façon scrupuleuse et qu'on ait aussi le respect, évidemment, du droit commun et de la conduite convenable lorsque les gens sont dans l'obligation de se déplacer, bien évidemment. On a tellement donné pendant cette année, on a tous tellement fait d'efforts, il ne faut pas ruiner quoi que ce soit en une soirée. Il faut donner toutes ses chances à 2021. Il faut qu'on soit respectueux ce soir-là aussi et encore du couvre-feu tel qu'il nous est imposé et faire en sorte qu'on réduise au maximum les déplacements afin de se protéger tout simplement.
Et des contrôles, il y en a aussi depuis le 19 décembre et jusqu'au 8 janvier dans les ports et les aéroports.
Des contrôles pour les passagers qui arrivent en Corse, ils ont l'obligation de réaliser un test PCR ou antigénique moins de 72 heures avant leur départ. Depuis sa mise en place au début de ses vacances de fin d'année, plus de 46 000 passagers ont été contrôlés et seuls 32 verbalisés. Hier après-midi, le préfet de région, Pascal Lelarge, était justement à l'aéroport d'Ajaccio pour suivre l'une de ses opérations de contrôle, Jean-Baptiste Lecq.
14h35, le vol Air Corsica, arrivé de Lyon, se pose. Tour à tour, les passagers descendent. Dans le hall des arrivées, la police est là pour les accueillir. Un test PCR ou antigénique, effectué 72 heures avant le vol, est demandé à chaque passager. Après une vingtaine de minutes, le contrôle est terminé. Tout le monde est en règle. C'est d'ailleurs le cas sur la plupart des arrivées dans les ports et aéroports de Lille. Depuis le 19 décembre, et l'obligation de présenter un test négatif, la quasi-totalité des transports a été contrôlée, assure le préfet Pascal Lelarge. Plus de 46 000 personnes ont été contrôlées et 536 tests Covid réalisés pour des passagers qui n'auraient pas pris le temps de le faire avant de venir en Corse. Mais globalement, les voyageurs sont en règle. Les 358 opérations de contrôle n'ont donné lieu qu'à 32 verbalisations.
Et le nombre de cas détectés dans l'île en 24 heures a encore augmenté.
49 cas selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé hier, 18 en Corse du Sud, 31 en Haute-Corse, où la positivité augmente également puisqu'elle est désormais de 0,9% contre 0,6% en Corse du Sud. La Haute-Corse qui accuse également une hausse du taux d'incidence qui est passé au-delà du seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. En parallèle, le nombre de personnes hospitalisées est en baisse. 15 personnes sont toujours dans les hôpitaux. C'est une de moins que la veille. 15, dont 3 en service de réanimation de soins intensifs. Et puis en revanche, au niveau national, les chiffres ne sont pas bons. Santé publique France a enregistré plus de 26 000 cas de Covid hier et plus de 300 décès.
2020 touche à sa fin et l'heure est au bilan.
Et oui, on le sait, 2020 a été marqué, on ne cesse de le répéter, par la pandémie de la Covid-19, le confinement, la modification des habitudes, que ce soit dans la vie personnelle ou dans votre travail. Nous avons donc décidé de donner la parole chaque matin, cette semaine, à différents acteurs. Il y a eu les pompiers, il y aura les médecins, les prêtres qui font la société corse et ils vont nous raconter leur année 2020. Alors aujourd'hui, nous donnons la parole à une enseignante. Elle est directrice d'une école primaire au village de Vescovat, au Letizia Bâle, qui répond aux questions de Christophe Iudicelli.
Notre façon d'enseigner a été modifiée, a été changée, qu'on puisse assurer une continuité pédagogique, aider tous les élèves, que ce soit par voie numérique ou bien par envoi d'enseignement par voie postale. Donc nous avons pris le temps de rassurer chaque élève. Nous les contactions au quotidien, donc par téléphone, pour les aider au quotidien à mieux gérer leur journée et à mieux les organiser. Nous leur faisions parvenir un emploi du temps, nous leur faisions parvenir les enseignements, des enregistrements vocaux ou des petites vidéos pour aider au quotidien la gestion. Le fait d'être dans le rural, créer des liens et une facilité quand même de communication avec les familles. Hein. Comme je disais, c'était un travail du quotidien. Les familles ont pu nous faire confiance et ça a été un beau travail de collaboration. Je retiens une belle collaboration, de la confiance et de la bienveillance.
Et dans le reste de l'actualité, mobilisation de soutien hier à Alain Ferrandi et Pierre Alessandri devant la préfecture d'Ajaccio.
L'association Laura di Ritorno et la Ligue des droits de l'homme ont réagi au maintien du statut de DPS, détenu particulièrement surveillé pour les deux membres du commando Irignac. Laura di Ritorno dénonce une décision politique contraire au droit qui ne tient pas compte de l'avis de la commission pénitentiaire puisque cette dernière avait délivré en mars dernier un avis positif à cette levée. Leur crainte désormais, c'est que les deux hommes finissent leur jour en prison alors qu'ils sont conditionnables depuis 2017. Ils appellent à une nouvelle mobilisation qui est prévue donc le 9 janvier prochain. Puis toute l'actualité, elle est également à retrouver sur notre site internet Bleu RCFM et sur nos réseaux sociaux.